Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Jim Morrison de Jean-Yves Rezeau est une biographie en français consacrée au chanteur et parolier des Doors, mort à Paris en 1971 à 27 ans. Paru dans la collection Folio Biographie, cette édition de 2012 retrace une trajectoire brève depuis une enfance marquée par les déplacements familiaux jusqu'à la célébrité mondiale, puis aux dernières années parisiennes. Rezeau connaît particulièrement le sujet, ayant écrit plusieurs ouvrages sur Morrison et travaillé dans le milieu de l'édition musicale, notamment autour du label Elektra. Son objectif ne consiste pas seulement à raconter les excès du roi lézard ou à entretenir une légende rock. Le livre replace Morrison dans ses liens avec la poésie, la culture américaine des années 1960, la contestation politique et la dynamique collective des Doors. La forme chronologique privilégie une lecture claire de son évolution. Elle permet de comprendre comment un lecteur passionné et un artiste ambitieux est devenu une figure médiatique dont la célébrité a parfois masqué la vocation poétique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la poésie comme centre de gravité de Jim Morrison, le fil directeur le plus distinctif de la biographie et la place donnée à la poésie. Rezeau présente Morrison non comme un chanteur qui écrivait occasionnellement, mais comme un poète pour qui la scène, le disque et la voix formaient des moyens de prolonger une recherche littéraire. Cette perspective corrige une réduction fréquente du personnage à son physique, à la provocation ou à la mythologie du rock. Les lectures précoces, le goût pour les mots, la publication de textes et le projet de se consacrer davantage à l'écriture deviennent donc des éléments structurants de son parcours. La musique des Doors est examinée à partir de cette tension. Les paroles ne sont pas seulement des accessoires de chansons célèbres, elles participent à un imaginaire traversé par le désir, la mort, la liberté et les visions. Le livre souligne aussi le coût de la célébrité. Le statut de vedette transforme Morrison en image publique, alors même que cette image peut éloigner le public de ce qui comptait le plus pour lui. Cette contradiction aide à éclairer ses comportements ambivalents face au succès. Elle donne une cohérence à une vie souvent racontée comme une simple succession d'escandales. La biographie invite ainsi à distinguer le personnage spectaculaire, construit par les médias et les concerts, du travailleur des mots qui cherchait une reconnaissance littéraire. Deuxièmement, les Doors comme aventure collective et non simple décor, bien que le titre mette Morrison au premier plan, Rezeau ne traite pas les Doors comme un simple accompagnement. Le groupe est présenté comme le cadre artistique qui rend possible la transformation des textes et des intuitions de Morrison en une œuvre musicale durable. La rencontre avec Ray Manzarek, puis le travail avec John Densmore et Robbie Krieger, éclaire la naissance progressive de cette identité sonore singulière. Le livre rappelle ainsi que les chansons emblématiques reposent sur une interaction entre clavier, guitare, batterie, voix et écriture, plutôt que sur la seule présence magnétique du chanteur. Cette approche est importante pour analyser la carrière du groupe avec précision. La notoriété de Morrison tend à absorber le récit public des Doors, mais elle ne suffit pas à expliquer la variété des compositions, des arrangements et des évolutions stylistiques. Rezeau suit les enregistrements, les concerts et les tensions internes afin de montrer comment la création collective résiste parfois aux dérives personnelles du frontman. Les difficultés relationnelles prennent alors un sens concret. Elles ne relèvent pas seulement de conflits privés, elles affectent les répétitions, les tournées et la continuité du travail. Le lecteur obtient ainsi une vision moins éroïssante de la légende. Morrison demeure indispensable au groupe, mais son imprévisibilité met aussi à rude épreuve les partenaires qui tentent de préserver une activité artistique et professionnelle. Troisièmement, une révolte contre l'autorité située dans les années 1960. La biographie relie fortement Morrison au contexte américain des années 1960. Sa défiance envers l'autorité, son refus des normes morales et ses provocations sur scène ne sont pas présentés comme de simples gestes individuels. Ils prennent place dans une période agitée par la guerre du Vietnam, les conflits sociaux, la censure, la surveillance et les mutations des mœurs. Cette mise en contexte évite de lire le chanteur avec les seuls codes contemporains du vedettariat. La rébellion de Morrison nourrit une esthétique et une attitude, mais elle rencontre également des institutions capables de répondre par la répression judiciaire et médiatique. Les incidents de concert et les poursuites liées aux bonnes mœurs révèlent la collision entre une culture rock en expansion et un ordre public encore fortement conservateur. Rezeau montre aussi les limites de la posture rebelle. La contestation peut être créatrice lorsqu'elle ouvre de nouveaux espaces de langage et de performance. Elle peut toutefois devenir autodestructrice si la transgression cesse de servir un projet artistique et se transforme en répétition. Cette double lecture donne de la densité au portrait. Morrison ne devient ni un martyr politique simplifié, ni un provocateur vide de sens. il incarne plutôt une contradiction de la contre-culture, entre aspiration authentique à la liberté et piège personnel de la démesure. Le livre fait donc de son destin une entrée utile dans le climat culturel et politique de cette décennie. Quatrièmement, de l'enfant lecteur à la figure publique instable, Rezo consacre une attention réelle aux années de formation, ce qui permettait de ne pas commencer le récit au moment où Morrison devient déjà une icône. Les fréquents déménagements liés à la carrière militaire de son père, la solitude et le refuge dans la lecture dessinent un arrière-plan utile pour comprendre son rapport complexe aux autres et aux institutions. Cette partie ne cherche pas à fournir une explication unique de la suite de sa vie, elle établit plutôt des continuités prudentes entre une personnalité intellectuellement curieuse, une sensibilité isolée et une volonté croissante de se soustraire aux attentes familiales. Le passage vers les études, les arts et la musique montre que Morrison ne fut pas uniquement façonné par la culture populaire. Ses intérêts pour la littérature, le cinéma et la poésie comptent dans la formation de ses ambitions. La biographie observe ensuite le contraste entre cette intériorité et la figure publique produite par le succès. Sur scène, Morrison peut apparaître conquérant, érotisé et imprévisible. Hors de cette image, le livre restitue un homme plus vulnérable, préoccupé par ses textes et souvent en conflit avec lui-même. Cette distinction est analytiquement importante car elle évite deux simplifications inverses, celle du sex-symbole sans profondeur et celle du poète pur épargné par les conséquences de ses actes. Rezo conserve les deux dimensions et décrit une personnalité dont le charisme nourrit autant la création que la destruction. En dernier lieu, la descente vers Paris, sans romantiser l'autodestruction, les dernières années occupent une place décisive dans une biographie de Morrison, car elles ont largement alimenté le mythe du Club des 27. Rezo aborde cette période par les tensions croissantes du groupe, les dépendances, les relations sentimentales tumultueuses, les difficultés judiciaires et le besoin de quitter une identité de star devenue pesante. Paris apparaît comme un espace de retrait possible, associé au désir de retrouver l'écriture et une forme de distance par rapport au circuit américain du rock. Pourtant, le livre ne transforme pas cet éloignement en salut artistique assuré. La période parisienne reste marquée par la fragilité, la solitude et une fin prématurée. Cette sobriété est essentielle. Elle permet de comprendre pourquoi la mort de Morrison a fixé son image dans une jeunesse éternelle, tout en évitant de faire de cette mort une conclusion esthétique désirable. La biographie met en regard la puissance de son héritage et les pertes concrètes causées par son comportement. La création des Doors demeure considérable, mais elle ne justifie pas les souffrances infligées à lui-même ou à son entourage. En retraçant ce mouvement de façon chronologique, Rezo montre que la chute ne fut pas un destin abstrait imposé par le génie. Elle résulte aussi de choix, de dépendance, de pression professionnelle et de relations instables. Le lecteur est ainsi invité à séparer la valeur durable des œuvres de la fascination parfois complaisante pour la destruction. En conclusion, cette biographie conviendra en priorité au lecteur qui souhaite découvrir Jim Morrison au-delà de la figure mythique du chanteur des Doors. Elle est également pertinente pour les amateurs de rock américain, de poésie contemporaine, de contre-culture et de récits sur les années 1960. Son intérêt pratique réside dans une narration chronologique qui facilite le repérage des grandes étapes de la formation intellectuelle de Morrison aux années des succès, puis à la période parisienne. Sur le plan intellectuel, elle aide à distinguer plusieurs niveaux souvent confondus dans les récits consacrés au roi lézard. Soit le poète, le performeur, la vedette médiatique, le membre des Doors et le jeune homme aux prises avec ses propres excès. Rezo se distingue de nombreuses biographies rock par son refus relatif de la simple accumulation d'anecdotes. Le livre privilégie les liens entre les événements, le contexte historique, les pratiques artistiques et les contradictions du personnage. Son expérience dans le domaine musical et son intérêt constant pour la poésie donnent à son étude une orientation spécifique. Il ne nie ni la séduction ni les débordements de Morrison, mais ne les laisse pas définir seuls son importance. Le résultat est un portrait documenté, lisible et nuancé, utile autant comme porte d'entrée vers les Doors que comme examen critique des mécanismes qui transforment un artiste en légende. Il reste particulièrement recommandé à ceux qui veulent écouter les chansons avec une attention renouvelée à leurs mots, à leur époque et à leur fabrication collective. Si vous souhaitez soutenir Jean-Yves Rezo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.